Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
18h01 et 9 secondes sur Radio Campus Paris. C'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonjour, nous sommes le lundi 27 juin, ça c'était avant, normalement j'ai oublié de le dire. Mais la relève, c'est toujours 30 minutes avec un talent d'aujourd'hui et surtout de demain. Ce soir, on va parler de chiens abandonnés et de nerfs ulnaires. Oui, oui, j'ai appris un mot, le nerf ulnaire. Mon invité est bédéaste. Bonjour Nicolas Pégon. Il est pressé. Vous publiez Hound Dog, une bande dessinée aux éditions De Noël Graphique, qui est aussi entre polar et récit existentiel. Ça vous va comme résumé pour l'instant ?
Très bon résumé, ouais.
Ça va alors. Au début, on pourrait se croire dans une version BD de la série Mad Men. On assiste à une réunion de marketeux qui parle d'une nouvelle marque de whisky, à boire avec modération évidemment, qui est pensée comme une marque de survivants, peut-être même de surhommes. Et pourtant, on va suivre dans les pages qui suivent l'histoire de Loser.
Exactement, ouais.
C'est très étonnant ce petit prologue. C'est justement, c'est un hommage à la série ou vous avez,
non,
ça vous amusait de...
Je suis réalisateur de films d'animation à côté de la BD et donc j'ai fait pas mal de pubs. Donc j'ai pu côtoyer un peu le milieu. Je trouvais ça marrant de leur rendre hommage sur ces premières pages.
Vous leur rendez hommage de façon assez ironique, des hommages comme ça. Je sais pas si j'avais... Si j'aimerais en avoir tous les jours.
Oui, bah c'est on voit des trucs un peu absurdes dans ce milieu et comme la BD est pas mal faite d'absurdes, j'avais envie de piocher là-dedans.
Vous avez déjà vu des gens qui voulaient mettre des versets de la Bible sur une bouteille de whisky ?
Non, jamais.
Non, ça c'était une de vos idées à vous. Alors un des anti-héros de votre livre, se réveille un matin avec un chien, on ne sait pas d'où il est arrivé, s'il est tombé du ciel. Il va essayer de retrouver son propriétaire et il va à cette occasion découvrir un suicide qui est peut-être un crime. Le point de départ, c'était l'envie d'écrire un polar ?
Non, je pense que le point de départ... En fait, le polar, il est plus venu comme quelque chose qui me permettait de faire un fil rouge, mais ce qui m'intéressait le plus, je pense, c'était plus les conversations entre les deux personnages principaux et ce qui s'en dégageait comme poésie sur le regard qu'ils ont sur le monde et le passé.
C'est plus ça que vous aviez envie d'écrire que plutôt que d'écrire un récit concret pour dire...
Le polar, c'est une envie que je traîne depuis assez longtemps. Et du coup, je l'ai un peu couplé avec ce truc-là, mais ce n'était pas le point de départ en tout cas.
Le polar, ça permet de tenir une tension dramatique aussi au fil des pages. Il y a 200 pages, il faut les tenir. Et donc l'enquête, c'est un moyen d'y arriver.
Exactement, il y a de ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi l'envie de détourner le genre. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'était tout le livre est une suite de détournements de plein de choses. Alors c'est le détournement de ce qu'on peut imaginer de l'apocalypse. Il y a le détournement du noir. Je parle plus de noir d'ailleurs que de polar. Donc c'était plus par rapport à ça que je trouvais ça intéressant de bosser un truc dans ce délire.
Et moi je me pose souvent cette question, mais l'idée de départ c'est quoi ? C'est un des personnages que vous parlez. Alors vous dessinez, c'est d'abord quelqu'un que vous dessinez, c'est ce chien que vous dessinez.
Ouais, l'idée de départ, c'est le chien.
J'ai lu quelque part que quelqu'un qui est proche de vous a vu un jour un caniche et a dit que ça descend du loup. Une réplique qu'on retrouve dans le livre d'ailleurs.
Exactement, bon, c'est ça le point de départ. Enfin, c'est cumulé à ce que je traversais personnellement, c'est-à-dire que j'avais un peu des problèmes de santé et je me sentais au plus bas. Et donc, d'entendre cette phrase à ce moment-là, ça a résonné en moi, ça m'a fait marrer. Et je me suis dit, je vais un peu creuser ce truc jusqu'au bout. Donc, le personnage principal, César, il a un peu de moi, quoi, là, par rapport à ce truc de la détresse, puisque son bras gauche ne marche plus et il ne sait pas trop pourquoi, comme il ne sait pas trop pourquoi ce chien est au pied de son lit au début de l'histoire. Ouais.
Alors, je crois que c'est pas vous qui avez écrit la quatrième de couverture de votre livre, mais votre éditeur. Il fait référence à David Lynch de Twin Peaks, alors que moi j'ai plutôt tout de suite pensé aux frères Cohen. Plutôt, on est presque chez The Big Lebowski avec ces personnages, ce personnage un peu loser, travaillé aussi par la question de la transcendance. Il y a de ça chez vous aussi. Elle est très présente. Vous venez de parler d'Apocalypse. Moi, j'ai aussi pensé à un roman qui s'appelle La Route en vous lisant. Mmh. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Oui, oui.
Ouais, on retrouve des décors, en tout cas, qu'il évoque. Et puis, il y a aussi l'humour, parce que votre livre est aussi très drôle. Alors, vous êtes plutôt de quel côté, vous ?
Pour moi, oui, les frères Coen, je pense que c'est vraiment une référence, justement, dans la manière dont ils détournent les genres et dont ils font émerger de l'absurde, de situations plutôt dramatiques. Oui, d'ailleurs, la scène dont on parlait tout à l'heure, la première scène, est clairement inspirée pour moi des frères Coen qui jouent dans, par exemple, Serious Man, où on a un prologue de 10 minutes qui n'a rien à voir avec la narration du reste du film. Et donc, j'étais déjà un peu dans ce genre de démarche aussi. Enfin, très inspirant, les frères Coen, c'est sûr.
Alors là, il y a en même temps, vous trouvez un truc graphique, c'est que c'est hors sujet, mais cette bouteille de whisky, elle joue un rôle. On va,
oui, alors j'ai pas osé aller jusqu'au bout, peut-être.
Non, mais c'est bien, justement, parce qu'il y a comme un effet de montage, on dirait, au cinéma. Là, en tout cas, c'est de la BD. Quand on tourne la page, on comprend pourquoi il y a ce prologue. Il y a une raison, c'est pas complètement gratuit.
Non, quand on arrive
à la fin, encore
c'est,
plus.
C'est plus dans le sens où il y a une corrélation qui est thématique plus que de l'ordre de... C'est pas les personnages qu'on va suivre ensuite, et c'est pas ce genre de choses, quoi. C'est plus.
Bon, et puis en plus, alors, je vais essayer moi aussi d'aller dans l'ordre. C'est comme il y a beaucoup de détournements, il y a aussi cette musique là qu'on entend et qu'on entend, oui, quasiment dans votre livre. You ain't nothing but a hound dog. Presley Hound Dog, c'est le même titre que votre album. Nicolas Peugeon, je rappelle que donc vous publiez un album qui s'appelle Hound Dog chez De Noël Graphique. Je le prononce tellement mal que je vais peut-être être obligé de l'appeler si les gens veulent aller l'acheter. H-O-U-N-D, plus loin, D-O-G. Hound Dog, c'est quoi? C'est chien?
C'est
bâtard un peu, non?
Oui, alors la traduction littérale, ce serait limier, mais bon.
Ah oui, c'est plutôt l'inverse, alors c'est plutôt un très bon chien.
Ben, c'est chien de chasse, en fait.
Ah oui, c'est ça, c'est
Mais il y a une connotation assez péjorative dans le terme hound dog et la manière dont il est utilisé dans la chanson, notamment.
Oui, parce que alors, là, je suis parti dans tous les sens, alors que la BD est très très bien construite et très cohérente. Après, il y a un premier prologue avec Mad Men, et après il y a Elvis qui arrive.
Après il y a Elvis qui arrive.
Avec qui on le voit blanc sur des cases noires, c'est très beau.
C'est un espèce de fantôme mystique qui arrive, et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plus ce que j'imagine comme le générique, si la BD avait été un film, ça serait le générique d'introduction.
Parce qu'un des deux personnages croit qu'Elvis lui parle.
Exactement, il y a un des... Ben, oui, en fait, donc la BD, c'est un duo qu'on suit. Et donc il y a le personnage principal et son pote, son voisin, rêve d'Elvis et effectivement est persuadé qu'il lui parle dans ses rêves et qu'il lui dit, je sais pas s'il faut que je vais pas trop en dire, ouais, effectivement.
Mais c'est un Elvis qui est plus qu'Elvis, qui est devenu que. Exactement. On dit parfois des vedettes de la pop qui sont des dieux. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Exactement.
Il y a des messages. On va revenir juste au frère Cohen. Moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est la voisine qui a un abri anti-atomique.
Ouais.
Mais alors ça, vous les trouvez, c'est vous qui les inventez, vous?
Oui.
C'est... Vous nourrissez de...
Je me nourris un peu de ce que je vois autour de moi, à la télé. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, les survivalistes. Enfin, je trouve qu'il y a un truc assez dément dans cette mentalité. Et comme la BD, c'est un peu de croiser que des personnages hors normes, je trouvais ça assez intéressant d'en poser une dedans.
Il y en a eu beaucoup d'autres personnages comme ça que vous avez imaginés ou...
Pour cette BD?
Oui, pour cette BD que vous avez peut-être abandonné en cours de route.
Non, je pense qu'ils y sont tous. En tout cas, là, j'en ai pas qui me viennent. Mais même, peut-être qu'elle est moins absurde, quoique. Il rencontre une dame à la SPA qui pareil.
Celle-là, on l'a presque tous croisée, je crois.
Oui, voilà.
Celle qui demande un ticket, même. Ah, on va pas trop en dire non plus. Ouais. Mais donc ça, c'est de l'observation beaucoup.
De l'observation. Et puis, encore une fois, par rapport au frère Cohen, c'est toujours essayer de pousser les curseurs et de trouver ce qui va rendre le personnage un peu plus haut en couleur que la simple réalité, quoi.
Les frères Cohen, vous avez aussi essayé de les détourner en faisant ce livre? Parce que vous parlez de détournement, vous parlez de détournement
non,
tout
pense,
à l'heure.
Je pense pas, je suis peut-être trop au premier degré par rapport à eux. c'est humblement une tentative de faire quelque chose dans le même genre, mais je me vois pas les détourner, je me vois pas non plus faire aussi bien que quoi.
Mais ils vous inspirent, c'est des films que vous voyez souvent?
Certains, il y en a que je revois et justement quand j'écris ou quand j'essaie de trouver de nouvelles idées d'histoire, je retourne souvent les regarder. Ouais.
Et alors lesquelles? Parce qu'il y en a tellement maintenant. Tout à l'heure, vous avez parlé de...
Oui, Serious Man. Ouais, Serious Man, c'est un film que j'ai détesté la première fois que j'ai vu et puis la deuxième fois, je me suis dit que c'était peut-être le meilleur de leur filmographie. Et puis Inside Llewyn Davis, et forcément, puisque...
Carrément génial.
Et puis
beaucoup de musique. Vous intéressez à la musique nord-américaine, je crois.
Oui, j'ai un rapport à la création qui passe quand même très souvent par la musique. C'est, je pense d'ailleurs, pour ça que Elvis se retrouve en plein milieu de cette BD. Donc, ouais.
Ça veut dire que la musique d'Elvis vous accompagnait, par exemple, quand vous écriviez?
Oui. Ouais. J'ai cette habitude de me faire comme une BO. Quand je fais une BD, je m'invente la BO de, si ça avait été un film, qu'est-ce qu'il y aurait eu comme musique par-dessus. Et donc il y avait pas mal de Elvis, effectivement.
On parle beaucoup de cinéma, mais vous imaginez que vous avez aussi des inspirations dans la bande dessinée?
La bande dessinée, j'en ai pas tant. Je pense que la majorité, c'est musique, cinéma et puis littérature. La BD, alors je dis ça, mais... du coup, c'est plus relié au dessin, donc c'est peut-être plus des influences graphiques. Mm-hmm. Donc il y a forcément Charles Burns, je pense qu'on le ressent un peu dans l'utilisation du noir.
Dans le trait aussi.
Dans le trait, ouais. Et puis la BD Le Roi des Mouches, qui est déjà un peu un enfant de Charles Burns. C'est pareil, c'est fait par des Français, mais ça a tout d'une BD indépendante américaine. Et c'est pareil, on retrouve un peu le trait très épais et les noirs assez denses.
Ça, c'est ce que vous aimez, vous, esthétiquement?
Oui, je pense que je me suis retrouvé, petit à petit, je me suis retrouvé vraiment là-dedans.
Parce que de ce que j'ai lu, vous, à la base, vous n'avez pas toujours rêvé d'écrire des BD quand vous aviez 7 ans, 8 ans?
Si, quand même, enfin, c'est juste que je...
Vous n'imaginiez pas comment on pouvait le faire, vous dites?
Ouais, voilà, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que j'imaginais pas ça comme un métier, en tout cas c'est ce qu'on m'avait un peu expliqué, donc je me voyais pas en faire mon métier, ouais, voilà. Donc, en fait, je me disais plus que c'était trop bien pour moi, peut-être.
Non, mais j'ai lu dans le dossier de presse que vous avez quand même recopié au très près un manga japonais très connu que moi j'ai connu.
Alors non, c'était pas un manga, c'est un comics qui s'appelle Spawn. À l'époque, les couvertures, mais même le dessin à l'intérieur, c'était par un dessinateur qui s'appelle Greg Capullo et qui a vraiment un style très, 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 très léché. C'est vraiment du rococo en comics américain.
Avec donc, beaucoup de détails.
Donc c'est complètement délirant de se dire, tiens, je vais recopier à la hure près ce genre de dessin.
Vous étiez enfant, je crois. C'est...
Je pense que j'arrivais au collège, quelque chose comme ça.
Il faut bien s'occuper à ça, je vois. C'est pour peu que vous ayez grandi à la campagne, je ne sais pas si c'est
oui,
le cas.
C'est ça, ouais.
Si j'en crois votre livre, vous connaissez les paysages un peu de campagne, un peu.
Oui, alors ouais, je viens d'Alsace, donc c'est quelque chose qui se passe aux États-Unis, mais on peut peut-être retrouver un peu le côté très plat de cette région, et quand je passe par la Lorraine. Ici, il y a quand même une scène qui est inspirée un peu d'un paysage de mon enfance, c'est la scène dans la gravière. En fait, dans la BD, plutôt que d'aller à la plage, parce qu'ils n'ont pas de plage, ils vont se tremper les pieds au bord d'une gravière, donc c'est tout sauf balnéaire. Ouais. Et donc, ce genre d'esthétique un peu post-industrielle, ça me plaît. Ouais.
Est-ce que vous avez vu le film Red Rocket ? Parce que dedans, il y a un point commun entre ce film et votre livre, je pense, c'est les décors. C'est ces mêmes décors, c'est ce qu'on vient de parler. Hein. Cette partie des États-Unis qu'on ne voit pas, c'est un peu les États-Unis des rednecks, des gens qui ne sont pas très riches, qui Alors vivent comme ils peuvent.
Je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il y a pas mal de films, de bouquins qui creusent déjà un peu ce sujet. Vous parliez d'ailleurs de La Route tout à l'heure.
Ouais.
C'est aussi un peu dans cette esthétique de la crasse. C'est un peu ce qui m'intéresse en général. J'aime bien les losers et j'aime bien quand ça se passe dans un endroit qui n'est pas très accueillant. Quoi.
Mais vous, votre culture, vous intéressez à la culture populaire, à la culture pop ?
Dans quel sens ?
Là, par exemple, on parle d'Elvis. J'ai vu que vous aviez écrit un court-métrage sur un musicien de blues contemporain.
Ouais. Si on parle vraiment du pop-pop, dans le sens, par exemple, Elvis, l'icône... l'icône du rock'n'roll, ce qui m'intéressait aussi dans ce personnage, c'était le côté un peu désuet et le côté très ambivalent, c'est-à-dire que Elvis, on peut penser qu'il a une très grande classe, ou on peut se dire qu'il est complètement ringard, et j'aimais bien ce décalage qui correspondait bien à ce que j'en fais dans la BD encore, sans trop en dire.
Vous le trouvez trop classe ou trop ringard ?
Les deux.
Les deux à la fois ?
Exactement, les deux, ouais. Je pense que y a une double page au début où effectivement je décompose une danse d'Elvis et c'est vraiment un moment de concert que j'ai vu et qui m'a...
C'est très beau cette double page, hein, vraiment, où on voit, je crois que ça fait 4 par 4, peut-être
c'est
4 par 5 peut-être.
C'est 9 cases sur chaque page.
J'ai l'impression d'en avoir vu plus tellement ça m'a plu. Et on voit le corps, juste le corps qui bouge. On le reconnaît tout de suite alors que vous ne dites pas que c'est lui. C'est ça qui est génial.
Justement, oui.
Il n'y a pas beaucoup de chanteurs, à mon avis, dont on peut faire ça.
Ah, c'est possible, oui, effectivement. Ouais, c'est sûr qu'Elvis a vraiment une gestuelle particulière. Et oui, je pense que j'ai grandi avec l'idée que c'était le papy du rock'n'roll. Et puis un jour, j'ai vu cet extrait de concert et je l'ai vu bouger. Et je me suis dit, ça y est, je comprends pourquoi c'était vraiment un phénomène et pourquoi on en parle encore. Quoi.
Très bien. Alors, on va écouter un peu de musique. Ce n'est pas Elvis, là, normalement. C'est Tamino et ça, c'est tout de suite. Falling. Voilà, c'était Tamino, The First Disciple. Je me suis demandé comment on disait disciple en anglais, je ne sais pas. Donc on va dire disciple. Et voilà.
La relève sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Nicolas Peugon et aujourd'hui c'est vrament le cours Christophe apprend l'anglais, Hound Dog, chez De Noël Graphique. J'essaie de faire quelque chose qui n'est pas très simple à la radio, c'est parler d'un style de dessin. Moi j'ai trouvé que vous aviez une ligne claire assez sombre, c'est-à-dire que vous avez un dessin assez précis, mais c'est par le dessin que vous exprimez la déprime de vos personnages, c'est pas tant par le texte, beaucoup de choses passent par l'image, j'imagine c'est volontaire.
Oui, ligne claire assez sombre, je pense que ça marche, c'est une ligne claire avec beaucoup de noir autour. je sais pas si c'est le dessin, moi j'ai plutôt l'impression que c'est par les décors, mais bon.
Et les couleurs aussi.
Et les couleurs, c'est
vrai. Les choix de couleurs qui sont...
Oui, il y a un choix de couleurs assez passé, je voulais vraiment que ça... En fait, pour être tout à fait honnête, au départ je l'avais écrit comme une histoire d'anticipation, ça devait se passer dans un futur proche. Et je voulais que ce futur proche, il ressemble au passé, en fait, qu'il soit un peu, ben, comme je disais, par rapport à Elvis, qui est quelque chose de désuet. Donc j'ai un peu cherché une gamme colorée qui allait avec ça, où du coup, même s'il y a des panneaux publicitaires multicolores un peu partout, on a quand même l'impression d'une image un peu passée.
Et c'est ce qu'on disait aussi pendant la pause, on va aussi être complètement honnête avec les gens qui nous écoutent, c'est qu'on a beaucoup parlé d'États-Unis, mais en fait, votre livre, votre histoire, elle n'est pas du tout... c'est écrit nulle part que ça se passe aux États-Unis.
Oui, c'est l'esthétique.
Ça l'évoque, ouais. Mais c'est une esthétique qui... Ouais, c'est ça, c'est l'esthétique de certains films, de certaines séries, mais ça pourrait se passer en Alsace.
Oui, bah, y a rien qui l'empêche. Ça pourrait se passer en Alsace, presque, effectivement. En fait, moi, à la base, effectivement, je voulais pas pointer le fait que ce serait aux États-Unis. L'idée, c'était plus de faire une image d'un certain Occident, quoi. Donc, je trouvais que ça assez logique de passer par l'Amérique, qui est un peu l'Occident dans son côté le plus exubérant, quoi. Et donc, oui, c'est comme ça que je me suis. Ça, plus Elvis aussi. Elvis a aussi beaucoup orienté l'esthétique du livre.
C'est vrai qu'en France, on aurait Johnny Hallyday tout de suite, ça serait pas pareil. Il y a une chose qui m'a frappé aussi dans votre livre, c'est la qualité du papier. J'imagine que ça, c'est un de vos choix. C'est vous qui avez voulu ce papier brillant. C'est pas le papier qu'on voit le plus souvent alors, aujourd'hui en BD.
C'est marrant que vous disiez ça, parce que je n'ai pas choisi ce papier.
Ah bon?
Oui.
C'est pas vous qui l'avez voulu? Je pensais que ça allait justement bien avec l'ensemble.
Bah justement, moi, je voulais un papier mat. On rentre dans des considérations un peu techniques, mais vous avez dû entendre parler du fait qu'il y a des pénuries de papier en ce moment. Et du coup, on était un peu limité dans les choix.
C'est pas vous qui l'avez voulu, c'est une question purement pratique.
Mon éditeur aimait bien pour le coup.
Bah ouais, je trouve que ça rend bien pour le coup. Vous travaillez aussi sur des dessins animés, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez réalisé un court-métrage One After the Other. On mettra, ça continue, elles ont, hein. On mettra le lien sur le site de la radio. Est-ce que Undog, ça aurait pu être un dessin animé?
Je l'ai écrit comme ça. Je l'ai écrit comme un film, le film que j'aurais voulu faire. Et puis,
ça pourrait le devenir ?
Si on me le proposait, oui. Mais oui, moi j'ai toujours eu la velléité de faire du cinéma d'animation. Et en général, mes scénarios de BD, c'est des films que j'ai pas pu faire.
C'est différent. J'imagine que l'avantage d'une BD, c'est que vous êtes seul. Il n'y a personne pour vous embêter.
Quand vous travaillez dans un
dessin animé, vous avez toute une équipe, c'est plus compliqué.
En tout cas, c'est ce qui fait que c'est réalisable, puisque ça ne dépend que de moi, et donc j'ai à générer suffisamment d'argent pour rassembler une équipe. Après, c'est une activité solitaire. Moi, j'aime bien passer de l'un à l'autre. C'est vrai que faire que de la BD, au bout d'un moment, c'est un peu dur de vivre qu'avec soi.
Vous êtes avec des chanteurs, avec d'autres artistes.
Oui, mais bon, je sais pas. J'aime bien échanger. Il y a quelque chose dans la création qui... J'aime bien l'émulsion de groupe. Ce qui fait que je reste dans l'animation. Et puis la BD, c'est l'espace de liberté. Donc j'aime bien passer de l'un à l'autre.
Là, c'est l'éditeur qui joue ce rôle-là, justement,
de
faire retravailler.
Oui, même si l'éditeur me laisse énormément de liberté, ce qui est forcément pas désagréable du tout. Et surtout quand quand j'ai ce travail à côté, c'est ce que je cherche dans la bande dessinée. C'est vraiment trouver ma voie et expérimenter des choses que je peux faire que seul, quoi.
Donc là, vous allez refaire une BD ou vous continuez dans le dessin animé ou les deux ?
Les deux, toujours les deux. Toujours les deux.
Vous avez toujours un projet en parallèle, en fait. Vous avez deux projets en parallèle.
Oui, le dessin animé, c'est quand même plus alimentaire, on va dire. Même si j'essaie de développer des projets, mais c'est vachement plus sur le long terme, parce que... développer des projets d'animation, ça prend beaucoup de temps. Mais du coup, je continue d'avancer sur mes BD, qui sont du coup des trucs plus immédiats et du coup qui me font du bien.
Très bien, merci beaucoup Nicolas Peugon. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Undog aux éditions de Noël Graphique. Merci d'être passé par le studio.
Merci.
Voilà, c'était La Relève proposée par Christophe. Aujourd'hui, elle était réalisé par Jonathan. Merci à tous les réalisateurs qui se sont succédés au cours de toute cette saison. Merci à tous les invités qui sont venus pendant cette saison. La Relève part en vacances. Elle espère revenir vous retrouver au mois de septembre. Là, en attendant, vous allez de toute façon, qui est où par Relève, vous retrouvez le programme musical de Radio Campus Paris. Et on vous dit très bien, passez un très bel été avec des BD, avec réécouter toutes les émissions. Il y en a une petite vingtaine. Au revoir.